Nous allons évoquer un phénomène qui nous vient des États-Unis, les jeux de rôle, des jeux qui ont fait leur apparition en France au début des années 80 et qui aujourd'hui touchent plus de 250 000 jeunes. Ces jeux.
Arrête tes conneries, ça devient lourd.
Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans cette saison 2 déjà de Roll You Fool. Après des mois d'absence, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, et cette fois, on change un petit peu de formule, puisque nous allons non pas vous parler des univers, on va dire, comme on a pu le faire dans la saison précédente, écouter la saison précédente, bien entendu, mais nous allons plutôt nous intéresser à des personnalités qui ont fait ces univers, à des auteurs, à des univers très 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 spécifiques, à des petits points de détail, à tous ces trucs extrêmement précis, extrêmement pas du tout rébarbatifs, mais qu'on va essayer de rendre intéressant. Et évidemment, nous allons commencer par le commencement, par le début, par le créateur, l'inventeur, le phare dans la nuit, comme je disais, mais non, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Gary Gygax. Alors non, Gary Gygax n'est pas avec nous, parce que Gary Gygax est mort.
Et enterré.
du coup, ça va être compliqué pour qu'il soit là, mais on a mieux, pardon, on a mieux, on a notre Gary Gygax francophone en la personne de Stier. Salut Stier.
Salut sectaire. Et je vais tout de suite faire dérailler ton train. Parce que, oui, on va parler de Gary Gygax, mais on va aussi beaucoup parler de toutes les personnes qui l'ont entouré. Parce que l'histoire de Gary Gygax comme père fondateur du jeu de rôle, eh bien, est comme toute belle histoire, un mythe qui s'est créé par la volonté de Gary Gygax, mais qui a aussi été...
Qui s'est entretenu... T'es déjà en train de casser les mythes.
Ouais, mais complètement.
Quel iconoclaste, ce garçon.
Et c'est, en fait, bon... C'est quelque chose qui est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre au bonhomme. On va voir qu'il a un rôle qui est essentiel, très important, sur pas mal d'aspects. Mais on va aussi parler beaucoup des grands oubliés de cette histoire, comme Koontz, comme Arneson et d'autres, qui ont été au début de tout cela. Et pour revenir un peu sur la démarche, pourquoi parle-t-on de Gary Gygax? Pourquoi va-t-on parler d'autres questions? C'est parce qu'on peut aussi poser la question, au même titre qu'il existe un cinéma d'auteur, est-ce qu'il n'existe pas un JDR d'auteur? Est-ce qu'on ne pourrait pas, finalement, quand on regarde un univers en disant ça, c'est du Sandy Peterson tout craché, ou ça, c'est du, je ne sais pas, du Gabori tout craché? On va voir que là où, dans certains types d'univers, oui, très clairement, on peut parler de JDR d'auteur, mais on peut voir aussi que dans les règles, dans les mécaniques, eh bien, il y a une patte, il y a quelque chose qui va dire, ça, on voit bien que c'est un peu la patte française, c'est un peu, tiens, ça c'est du Sandy Peterson. Il y a des démarches, il y a des tendances,
des inclinaisons.
Ouais, des saveurs, oui, c'est exactement ça, des saveurs. Et finalement, Gary Gygax est très représentatif de ça, non pas tant dans les univers, parce qu'on est dans les années 70, la création des univers, les univers de jeux de rôle, on n'y est pas encore tout à fait, même si ça va venir... très très vite, en fait, ça va venir en parallèle. Mais on va voir que dans le cas de Gary Gygax, c'est pas sa priorité. C'est clairement pas sa priorité au début.
Donc, tu nous fais un petit historique, sa vie, une biographie de...
Ouais,
non, on s'en fout.
Hein, biopic. Écoute, j'ai déjà les acteurs en tête, j'ai la réal,
voilà,
je cherche un producteur.
on va pas faire ça, évidemment, on va pas vous noyer avec ça, surtout qu'en plus... C'est tout à fait trouvable sur Wikipédia ou autre, si vous avez vraiment envie d'avoir sa vie, son œuvre. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment son parcours à partir du moment où, pourquoi il va participer à la création du jeu de rôle, qui est quand même quelque chose de très très important au XXe siècle, on s'en rend pas compte, mais à mon avis, encore une fois, je pense que c'est un jeu, un univers, un système de jeu, une façon de jouer qui est révolutionnaire, à mon avis.
Une activité, hein.
C'est... Une activité, oui, qui est révolutionnaire dans tout, en fait, hein, dans ce qu'elle présente, dans ce qu'elle propose, dans tout un tas de choses. Et finalement, aussi marquante et aussi incroyablement moderne et marquante que d'autres révolutions ou évolutions du XXe siècle, qu'on cite plus volontiers, comme l'informatique, comme ces choses-là. Voilà. Donc ça, c'est un peu ma marotte à moi de défendre bec et ongle le jeu de rôle en disant que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme je l'avais déjà dit, hein, peut-être le meilleur jeu de l'univers, je pense.
Et avant d'embrayer sur Gary Gygax, on va quand même parler de points saillants quand même de sa biographie. Il y a des éléments qui sont quand même très constitutifs et qui vont expliquer pas mal de choses.
Ça, c'est important.
Parce que avant Gary Gygax, il y avait énormément d'activités. Gary Gygax ne sort pas de nulle part. Il ne s'est pas levé un beau matin en disant « Tiens, j'ai inventé le jeu de rôle ». Gary Gygax, en fait, il vient d'un trou perdu des États-Unis, un patelin qui s'appelle Lake Geneva, dont on reparlera par la suite. Qui aujourd'hui n'est plus trop un patelin, pas loin des grandes, des Twin Cities américaines, donc du secteur. Et à cette époque, le jeu de loisirs, le jeu de société pratiqué, entre guillemets, le terme n'existe pas, n'est pas du tout encore employé à cette époque, mais pratiqué par les geeks, c'est le Wargames. Et derrière le Wargames, vous avez des sociétés qui existent toujours, hein, Avalon Hill par exemple, qui sont des experts dans des jeux de type simulation. On va reproduire les grandes batailles, l'Africa Corps en Afrique du Nord, le débarquement, etc. Et derrière ça, un nom que j'ai découvert quand je me suis renseigné sur l'histoire, que je ne m'attendais vraiment pas du tout à voir là, H.G. Wells. H.G. Wells a sorti un jeu de figurines qui s'appelait Little Wars. Et en fait, H.G. Wells a transformé le jeu de stratégie où on avait des pions en jeu de figurines, des petites figurines en plomb.
Ah, et c'est de là que ça vient.
Ça vient de là. Alors, on suppose qu'à ce moment-là, il y en avait déjà des tas qui faisaient déjà. Mais H.G. Wells a fait quelque chose de très important. C'est qu'il a sorti un petit livret de règles.
Et d'accord, pour accompagner les figurines finalement.
Voilà, et c'est devenu très populaire, ça s'appelait Little Wars, on était au tout début du XXe siècle, c'est devenu très populaire en Angleterre, et puis ça s'est diffusé aux États-Unis. Alors aux États-Unis, il y a vraiment une culture des grandes batailles, comme partout, nous avec les guerres napoléoniques, eux avec leur guerre civile, etc. On refait la guerre de Gettysburg, et en fait, Gary Gygax, et ça c'est pour ça que j'insistais beaucoup là-dessus, Gary Gygax, c'est pas un... À la base, c'est terrible à dire ça, c'est un nobody, hein, c'est un vendeur d'assurance, dans un petit patelin paumé des États-Unis, mais il fait quelque chose qui va être très important et qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui dans la culture des développeurs de jeux de rôle. Il anime une association, et une association de joueurs de figurines, etc., de Geneva. Alors je vais pas noter le nom de la convention, bon, on va le retrouver par la suite puisque ça va donner le nom de cette première boîte, hein, TSR, hein. Alors ça a changé de nom plusieurs fois pour des raisons X et Y, mais l'idée de base c'est qu'effectivement il a déjà un petit groupe de personnes avec qui il joue avec des jeux de figurines, et dans un premier temps il se dit, bon, la guerre civile américaine, c'est sympa, etc. On a commencé à voir le tout. Et puis, il voit que dans plusieurs petites publications, commencent à sortir des publications sur les batailles au Moyen-Âge. Et c'est assez sympathique parce qu'en plus, il y a les engins de siège, il y a machin, etc. Et c'est ainsi que va commencer à germer chez Gary Gygax l'idée de son premier jeu qui s'appellera Chainmail, qui aura pour ambition, en fait, de simuler des batailles de figurines au Moyen-Âge. Et dans ce petit dans ce premier jeu en fait qu'il est en train de publier avec ses premiers associés, il y a un troisième ouvrage pour y insérer des créatures issues des mondes fantastiques, de la fantasy dont il est très friand à l'époque. Donc on va retrouver Tolkien, on va retrouver Howard, on va retrouver Vance, Poole Anderson, etc., etc. Mais au début c'est vraiment annexe parce que et ça, c'est un autre point qui est très important. Je l'ai dit, Gary Gygax, c'est un vendeur d'assurance. Et il veut gagner du pognon, il veut gagner sa vie. Je rappelle, il est au fin fond des États-Unis. Un autre détail important, il a 5 gosses. Élever des gamins aux États-Unis, ça coûte cher. Donc, à un moment donné, il commence à vouloir transformer cette activité, ce qu'il fait, en une activité un peu plus lucrative. Et ça va, on verra que par la suite, ça va devenir extrêmement important quand il va perdre son job. Donc, il a cette idée-là et il se dit, bah, en fait, j'ai déjà un public, ce sont les amateurs de Wargames. Il faut bien avoir en tête, et ça c'est un point qui est très important, à l'origine, il n'y a pas du tout de jeu de rôle dans la tête de Gary Gygax.
Absolument pas, non, voilà. Tout à fait, c'est vraiment adapté les Wargames qui étaient... Alors, juste petite parenthèse sur le Wargames, si vous n'avez pas entendu parler de ça, ce qui est normal, parce que ça a un petit peu disparu, enfin, ça existe, mais c'est moins joué, surtout depuis
les jeux vidéo,
ordinateurs.
Voilà, c'est ça, les jeux vidéo ont vraiment pris part.
Mais c'était vraiment, le Wargames, il faut vraiment imaginer ça comme, à la base, c'était des grandes cartes plates, hein, enfin vraiment, c'était dans des boîtes à la noix, là, c'était des grandes cartes que vous dépliez. Dessus il y avait des losanges, des hexagones ou des petits carrés, vous mettiez des tout petits pions avec tout plein de petits chiffres écrits tout petit qui représentaient l'armure, la défense, ce que vous voulez, l'attaque, etc., le mouvement, et tous ces petits pions, et vous étiez vraiment comme dans une salle de guerre finalement, où vous ne déplaciez que ces petits pions. Donc il y avait quand même déjà eu une transition, comme tu l'as dit, vers la figurine, qui était déjà une représentation en 3D, hein, finalement, des personnages. Mais c'était, à la base, c'était vraiment pour les amateurs, comme tu dis, il n'y avait rien ni de fantastique, ni même d'imaginaire, non, en fait.
Il y avait une volonté de chasser l'imaginaire, c'était simulationniste. Ah, hein. Tu parlais effectivement de ces petits bouts de carton avec des chiffres, et à côté, tu avais des bouquins de règles qui faisaient la taille d'Atlas, où on te parlait d'attrition et compagnie. Alors... On dit que ça a disparu. En fait, il reste encore aujourd'hui un grand Wargames qui est Warhammer, qui reste dans son monde fantastique avec ses figurines.
Oui, Warhammer est venu par la bande. Voilà, on en parlera d'ailleurs un jour, mais c'est venu, voilà, c'est revenu.
Il est toujours là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeux de guerre stratégiques vont plutôt dans le monde du jeu vidéo, vont plutôt dans le monde de l'ordinateur, parce qu'il a cet énorme, à l'ordinateur, l'immense avantage de pouvoir vous présenter un terrain de jeu avec une vue
colossale.
De loin, en plus vous pouvez jouer à distance avec des gens, etc., etc.
Alors, pour en et puis surtout, tu n'as pas besoin d'avoir des pièces dédiées, parce que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que les pièces étaient colossalement dédiées à ça, puisque des parties pouvaient durer 8 heures, 9 heures. Enfin,
et c'est là où on rebondit effectivement sur Gary Gygax, parce que Gary Gygax avait sa maison, il avait sa salle, hein, il avait sa war room, où il recevait comme ça des gens des quatre coins pour pouvoir jouer, pouvoir faire échanger autour de ces parties. Et donc, il va éditer son premier jeu qu'il va appeler Chainmail. L'avantage, et là, c'est là, on va voir quand même deux choses qui vont être extrêmement intelligentes de la part de Gary Gygax. Il y en a un, on en reparlera quand on fera une émission dédiée dessus, mais on va quand même en parler déjà un petit peu. C'est l'importance des illustrations. Il faut que Gary Gygax sait qu'il doit attirer le chaland. Hein, il faut que les gens, il faut un support à l'imaginaire visuel. Autant sur la Seconde Guerre mondiale, le cinéma a permis de combler énormément de gens. Quand on parle de soldats, de tanks, de panzers, etc., les gens voient à peu près ce que c'est. À cette époque, n'oublions pas aussi un truc qui est très important. 1970, on est en pleine guerre du Vietnam aux États-Unis.
Donc l'imaginaire de guerre, l'imagerie de guerre est très présente.
Il y a un autre point qui est extrêmement important à cette époque. On a énormément de gamins qui n'ont pas leurs parents sous la main.
Puisqu'on est quoi, 25 ans après on est 25 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
La guerre de Corée.
12 ans après la guerre de Corée. Donc voilà, c'est vraiment...
Et on est en pleine guerre du Vietnam. Quand j'ai relu une biographie de Gary Gygax, j'étais assez étonné de voir combien de gamins, en fait, il y avait énormément de jeunes qui tournaient parce que, en fait, tout simplement, il n'y avait que leur mère à la maison. Certains avaient perdu leur père. La femme de Gary Gygax racontait qu'en plus, elle préparait à manger pour tous ces gamins. Parce que ils avaient personne d'autre, quoi. Donc il y avait vraiment une activité sociale derrière ça. Et donc proposer cela, et donc derrière ça, Gary Gygax, il sait qu'il va avoir tout un public de gens qui vont être très à cheval sur les règles, les mécaniques, machin, etc., etc. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire la connaissance d'un jeune qui ne vit pas du tout à Lake Geneva, qui s'appelle Dave Arneson. Dave Arneson, quand je dis un jeune, ce n'est pas un gamin, hein, il a la vingtaine. Il est gardien de sécurité à mi-temps. Il commence à enseigner. Alors, je ne sais plus s'il a déjà commencé à enseigner ou s'il va commencer à enseigner. Enfin bref, il est obligé de faire deux jobs. Et Dave Arneson, lui, il a commencé à développer un autre jeu qui s'appelle Blackmoor. Et Blackmoor a un point qui est très important. Dans Blackmoor, ce n'est pas des armées. chaque joueur joue un personnage qui s'aventure dans les ruines du château de Blackmoor. Et en face d'eux, ils ont quelque chose qui, par contre, qui n'existe pas à cette époque. D'ailleurs, Gary Gygax n'est pas du tout dans cette proposition. Il y a un référent qui est là pour orchestrer tout cela. Et en fait, quand on regarde un peu de recul, on s'aperçoit que ben, en fait, les bases de ce que nous, on connaît du jeu de rôle, ben, ça vient plutôt de Dave Arneson. Dave Arneson,
et oui.
Il met en place les personnages, il met en place la montée de niveau, et surtout, il y a un point qui est extrêmement important, Dave Arneson en a rien à secouer des règles. Il y a une scène qui est assez légendaire, parce que, on en reparlera un peu plus tard, lorsque les deux finissent par se rencontrer, Gary Gygax lui dit, bon écoute, on va essayer de mettre en commun tout ce qu'on a, et donc Gary Gygax, lui, il a son bouquin de règles, de truc, et puis Dave Arneson, il n'a pas grand-chose, il a dit, ouais, j'ai les caractères des monstres, quoi, c'est à peu près tout. Le reste, bah, c'est le référent qui adapte en fonction d'eux, quoi. Et ça va être c'est cette rencontre qui va être extrêmement importante, quoi. Donc, Gary Gygax, il voit le potentiel de ça, il comprend qu'il faut en faire quelque chose. Il décide de rassembler toute l'équipe, de rassembler tous ces gens avec les illustrateurs. Alors, il a un gros problème, c'est qu'il n'a pas de thunes. Alors, pour financer ce premier bouquin, ils vont réussir à dégoter un prêt de 1 000 $ hypothéqué sur leur assurance. 1 000 $ des années 70, c'est une grosse somme, hein, mine de rien. Mais voilà, ça commence avec 3 fois rien. Pour les illustrations, ils vont demander à droite et à gauche, notamment dans l'entourage de son épouse, dans lequel il y a beaucoup de gens qui font des dessins, et on le voit d'ailleurs, les premières illustrations de Donjons & Dragons sont quand même pas délirantes, mais surtout, et là il y a un illustrateur qui témoigne de cela, au début, ce que... Gary Gygax veut proposer, c'est une boîte à outils pour que les gens puissent jouer dans l'univers qu'ils veulent. Lui, il ne veut pas proposer d'univers. D'ailleurs, ça va être pendant très longtemps le leitmotiv de Donjons & Dragons, puis de ADD. On ne propose pas vraiment d'univers. On vous propose des règles qui vous permettent d'adapter un univers. Et notamment, ce que Gary Gygax a en tête, c'est Tolkien. Parce que c'est un gros succès de librairie. Et il dit, bah voilà, tu me fais un dessin d'un Balrog. Alors, le gars, il ne connaît pas très bien Tolkien. Il va dire, il regarde la description du Balrog dans Tolkien. Est-ce que tu te souviens de la description du Balrog dans Tolkien ?
Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ça devient... Oui, j'imagine le dessin, le résultat a dû être spécial. Quand même.
Bah, en fait, le gars, il dit, une grande silhouette sombre dans laquelle on pouvait deviner, etc. etc. Il dit, j'étais bien embêté parce que le trois quarts des choses qu'il me demandait, en fait, il n'y avait pas de référent. Et ça, c'est un point qui est très important. Gary Gygax, mine de rien... Par sa démarche, par sa volonté de vouloir justement proposer ces illustrations, il va créer un imaginaire. Quand il dit, ben voilà, il me faut un beholder. Alors il dit, voilà, un beholder, c'est une sphère volante avec 8 dieux, dont un qui envoie un rayon d'antimagie. T'imagines l'illustrateur qui le regarde la tête un peu penchée en disant, ouais, voilà, ok. Et donc, ça a été très compliqué, mais c'est essentiel, parce que Gary Gygax comprend que c'est important, il faut que ça vende. Donc, des illustrateurs, des gens qui vont passer des nuits entières à tester. Alors là, c'est moi qui lance une supposition, c'est à ce moment-là que Gary Gygax perd son job, et je pense que c'est lié au fait qu'il passe énormément de temps à s'occuper de ça plutôt qu'à vendre des assurances, probablement.
Ça, c'est possible.
Après,
ça.
On est dans...
Juste pour revenir un tout petit peu sur ce que tu disais sur le Tolkien, il faut aussi voir qu'on sort du Flower Power, on est sur la fin du Flower Power, on est sur la fin du mouvement hippie de la fin des années 60, et Tolkien était une grosse référence pour toute cette contre-culture, on va dire, américaine, universitaire et hippie, où il y avait beaucoup, dans les groupes musicaux, il y avait énormément de références à Tolkien, etc. Donc c'est pas étonnant aussi qu'il se saisisse de ça s'il veut que ça marche. Il va là où ça marche, quoi.
On est à peu près à la... En plus, comme j'ai dit, il y a toute la lutte contre la guerre du Vietnam. D'ailleurs, c'était un peu au grand désespoir de Tolkien, parce que lui comprenait pas du tout cet engouement, surtout de la part d'individus qui voyaient dans... qui voyait autre chose que ce que lui voyait dans son œuvre. Mais bon, après tout, voilà, de toute façon, Tolkien, je ne sais plus quand il meurt à peu près à ce moment-là.
Si vous oui, à peu près.
Ouais. Donc c'était surtout dans les années 50-60. Mais il y a vraiment... Effectivement, c'est très à la mode. D'ailleurs, à un moment, il y a un truc qui est tout bête qui va se passer. Ils vont recevoir un coup de téléphone des ayants droit de Tolkien qui vont dire, mais même pas en rêve, tu utilises le mot Balrog dans ton, dans ton, contexte, donc ils vont être obligés de lâcher toutes les références à l'œuvre de Tolkien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Hobbit dans Donjons et Dragons, ce qui va retarder la sortie parce qu'ils doivent tout réécrire en catastrophe. Petit rappel, années 70, pas d'ordinateur. Il faut tout taper à la machine à écrire. C'est compliqué. Donc quand vous devez décaler,
c'est pas un mot que tu corriges.
Voilà, tu fais pas.
C'est pas une sélection sous Word. Quoi.
Voilà, remplacer, rechercher. Non. Donc ça va retarder, je crois, de quelques mois. Et je rappelle que ces gens-là, pour ça, on jette la pierre quand même souvent. On dit Donjons Dragons mercantile, etc. Ces gens-là, ils avaient besoin de ça pour gagner leur vie à un moment donné. Pour la petite anecdote, Gygax va faire le choix. Ça va expliquer le choix des dés parce que. En gros, il voulait que les gens achètent les dés. Et le problème, c'est que les dés à 6 faces, quiconque a un Monopoly à la main, ça se trouve. Mais par contre, à dés à 20 faces dans les années 70. Donc, on pouvait commander les dés à part. Et je crois que j'avais lu les chiffres quelque part. À la fin, ça allait. Enfin, à la fin. Au début de Donjons et Dragons, ça représente quasiment 30% des revenus du truc.
Parce que oui, surtout que ça ne se remplace pas, les dés. Quoi.
Voilà, c'est à cette époque, c'est compliqué. On est au tout début, c'est-à-dire, bon, c'est pareil, c'est pas commun, mais ça commençait à l'être, c'est-à-dire les photocopieuses, Xerox avait commencé à sortir, donc les gens pouvaient quand même photocopier le bouquin de règles, donc à un moment donné, ça devenait difficile de gagner de l'argent avec, mais par contre, les dés, non, donc il y a beaucoup d'accessoires qui sortent, et ils focalisent là-dessus. Et ça, c'est vraiment la part de Gary Gygax, pour moi, elle va s'appuyer sur c'est le premier pilier, c'est-à-dire ce côté très communautaire, ce côté de dire, voilà, on fait des conventions, on voit les gens, on les rassemble dans une cave, on les fait travailler ensemble, etc. Parce que ce sont des groupes qui sont très isolés. À nouveau, je vous encourage vraiment à taper Lake Geneva dans Google Maps pour voir où ça se trouve. Je ne sais plus si c'est le Wisconsin ou le Minnesota, mais c'est nulle part. Hein. C'est vraiment, et on parle des distances américaines. Il y a Dave Arneson qui raconte la première fois où il va voir Gary, il doit rencontrer Gary Gygax. Il prend sa bagnole, il met 4 heures par y aller en pleine tempête de neige parce qu'on est dans le nord américain. Enfin, on a du mal un peu à se représenter ça. Moi, aujourd'hui, on me dit tu te rends à Paris, je monte dans un train, 2 heures plus tard, j'y suis. Quoi. Donc, il y a aussi ça qui joue beaucoup. Et donc là, ça, c'est le premier pilier, cette idée de créer des communautés, d'entretenir cette communauté, un peu ce côté un peu humaniste de République des Lettres. Ben là, ça va être République du jeu de rôle. L'autre aspect qui va être important, c'est le côté esthétique, c'est-à-dire vraiment créer des illustrations, faire en sorte qu'il y ait un visuel, que les gens puissent identifier le jeu de rôle avec cette idée de dire d'avoir une couverture, par exemple, pour les livres de règles. Parce qu'à nouveau, si on fait ce qu'il y avait avant, les livres de règles des Wargames, tu avais une illustration de tank, une illustration de soldat, et puis ça s'arrêtait là, et puis ça n'allait pas beaucoup plus loin. Tandis que là, non.
Oui, les Avanol. Si vous avez envie de vous jeter dessus, de regarder, vous tapez dans Google toutes les publications Avalon Hill, par exemple, où on a l'impression que c'est un tract de Hello, vous voyez ?
Ouais.
Tellement c'est imbitable, le machin, quoi.
C'est assez impressionnant. Et bon, ça parle à un public, hein, c'est tout à fait adapté.
Tout à fait.
Et l'autre point qui va être important, c'est faire vivre tout cela à travers quelque chose qui va dépasser simplement le cadre de l'activité en elle-même, c'est-à-dire pas se contenter simplement d'éditer le bouquin et dire « amusez-vous avec », ce qui est déjà pas mal en soi, hein, ce qui est déjà énorme. Et donc derrière, la création... Alors au début, c'est une newsletter, c'est-à-dire c'était... faut quand même imaginer le truc branque, hein. À nouveau, on est dans les années 70, il tapait un courrier pour dire, voilà, tenez, regardez tout ce qu'on a fait, les mises à jour, etc., qu'ils envoyaient par courrier à toutes les personnes qui avaient fait la souscription, qui va se transformer par la suite dans le magazine Dragon. Et ce magazine Dragon va être extraordinairement important, parce que dedans, on va retrouver toutes les plumes, tous les dessinateurs, tous les illustrateurs qui, par la suite, vont devenir des créateurs de jeux, quasiment tout le monde, tous ceux dont on va parler par la suite, Sandy Peterson, etc., ont à un moment donné, sont passés par la case Dragon. Et ça, c'est quelque chose, c'est entre guillemets l'intelligence, le génie de Gary Gygax, et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, plus sous cette forme-là, le 21e siècle, Discord, les forums Discord, les Instagram, les réseaux sociaux ont permis de, à la fois faciliter, mais rendre aussi cela très exigeant, parce qu'il faut qu'on soit visible. Mais cette manière de faire, l'idée qu'un univers de jeu de rôle doit vivre et qu'on doit communiquer dessus, eh bien ça, c'est Gary Gygax.
Et la convention aussi.
Et parce la convention,
que très vite, devant le succès quand même qui est assez rapide de Chainmail, enfin de la White Box, etc., et de Donjons et Dragons surtout, très vite, il prend le... Enfin, pas que lui, hein, eux, on va dire TSR, prend l'initiative en copiant complètement sur les Comic-Con qui ont déjà lieu et sur les Trek-Con, un truc comme ça, tu sais, les trucs, les Trekkies, là, de ceux qui sont fans de Star Trek. Ils vont prendre exactement le même schéma. Alors, bien sûr, ils commencent, hein, c'est pathétique, hein, ils sont 50, mais ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le même principe de dire « on va faire une convention de jeu de rôle ». Et c'est là aussi où passe et où découvre le jeu de rôle bah des gens comme, tu disais, Peterson, etc., qui vont passer là-dedans, et comme Ken Saint-André, dont on parlera aussi. Et c'est intéressant de voir, parce qu'il faut que vous imaginiez bien qu'à l'époque, quand vous alliez à une convention, et pour entretenir une communauté, c'était par lettre. Donc il y avait une mailing list, mais une mailing list par lettre. Donc vous receviez, vous vous inscriviez à votre mailing list, vous envoyiez un truc timbré, et puis on vous renvoyait une lettre en vous disant « voilà le magazine, voilà le journal, voilà le truc ». Et en fait, il va complètement calqué sur le jeu de rôle, ce qui existait bah, pour les bandes dessinées, ce qui existait bien sûr pour les wargames qui étaient très implantés à l'époque,
ouais, etc. C'est vraiment le... Bon, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très dans la culture sociale des États-Unis, ce sont ces conventions. On en a aussi en France, hein, largement, hein, si vous renseignez, vous verrez qu'il y a forcément une convention de jeu de rôle quelque part autour de chez vous, etc. Et j'avais souri parce que quand je me suis un peu renseigné sur le sujet... après la sortie donc, de la première édition de Donjons & Dragons, lorsqu'ils mettent en place la convention donc, de Lake Geneva qui va devenir la Geneva Convention, donc cette Gen Con,
et oui.
167 personnes viennent.
Oui, voilà.
Sauf que, à nouveau, on parle de Lake Geneva. 167 personnes à Lake Geneva, faut les mettre quelque part. Et à l'origine, ils commencent à gagner de l'argent et au début, ça fonctionne très bien, donc ils gagnent beaucoup d'argent. Donc ils s'achètent une petite baraque pour loger le staff et puis mettre de côté, faire en sorte que la famille Gygax n'ait plus à accueillir tous ces gens-là. Mais tu ne mets pas 167 personnes dans une... Donc il faut très rapidement s'accommoder. Aujourd'hui, enfin la dernière convention de Geneva, c'est 60 000 personnes.
Oui, voilà. Non, mais il faut se rendre compte que ça commence de rien, mais que ce petit rien, il aurait pu se dire on va commencer avec 160 personnes, c'est nul. Mais en fait, vu l'époque, vu le moment, tout le monde en parle. Il y a des articles dans des journaux nationaux parce que les gens se demandent mais pourquoi mon gosse ? Parce que c'est souvent quand même aussi, comme on disait, c'est souvent des jeunes qui sont à la fac, etc., et qui donc, comment ça, tu vas à Lake Geneva, mais quoi foutre, enfin,
c'est voilà, vraiment... c'est ça.
Où pourquoi, donc ça. Du coup, il commence à y avoir une émulation, un intérêt, y compris des gens qui ne s'y intéressent pas, et notamment des médias, qui commencent à s'intéresser au truc.
Et donc ça va être vraiment les trois piliers, c'est pour moi l'héritage de Gary Gygax, ça va être ça. Et c'est le moment où il faut un peu parler, donc revenir un peu sur ce Dave Arneson. Donc Dave Arneson... participe, et c'est là où on va avoir l'un des gros défauts de Gary Gygax, c'est que Gary Gygax, ben, il veut garder à lui hein, ce projet. Alors, je pense, bon, moi, c'est un peu ce que j'en ai déduit en disant un peu le truc, il veut absolument éviter un phénomène à ce qui s'est passé avec le Monopoly et Parker. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est ce qui va finalement lui arriver, sa boîte finit par être rachetée parce qu'il n'est pas propriétaire. Enfin, TSR, comme dit, c'est né d'un emprunt, donc il faut qu'il rembourse ses dettes hein, à un moment donné. Et puis, il faut fonctionner comme ça. Donc, lui, il a une crainte, c'est qu'il soit renversé, qu'il soit dégagé, remplacé par quelqu'un d'autre, ce qui va finir par lui arriver. Et donc, il a tendance à faire le vide et à vouloir garder absolument le monopole créatif du truc en disant c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, etc. Alors, oui, certes, j'ai repompé, mais c'est moi qui ai tout mis en œuvre. Et donc, la grosse fracture avec Dave Arneson arrive assez rapidement. Hein. Au final, le monsieur ne va pas rester longtemps. Mais j'ai gardé en mémoire une citation qui a été faite par l'un des collaborateurs. Et j'ai trouvé que ça résumait très bien. Alors je le traduis parce que je l'ai trouvé qu'en anglais. Arneson a réalisé une manière d'organiser l'imagination et de créer une narration collective. Gygax a réalisé une manière de réaliser, enfin de concrétiser des traditions de Wargames et de le vendre. C'est vraiment les deux choses. À un moment donné, il va y avoir une querelle mais monstrueuse au sein de TSR avec les quelques témoins qui disent, il a dit, on ne se rend pas compte dans l'époque dans laquelle elle était, mais voir un homme de 40 ans finir en larmes, c'est quelque chose dont vraiment le groupe éclate. Gygax garde le contrôle donc, de TSR, Arneson, Kuntz et les autres pas. Il ne reste qu'un seul Gus, l'illustrateur, parce que Gygax a besoin de lui. Et ça finit avec un procès. Procès que Gygax est obligé. Alors, comme très souvent aux États-Unis, on va rarement jusqu'au bout du procès, on fait une réalisation à l'amiable à la fin pour éviter. Et Gygax voyait qu'il n'allait pas le gagner parce que l'apport de Arneson était beaucoup trop important. Et il fait un accord à l'amiable qui fait que le nom de Dave Arneson va rester sur les livres, donc de ADD, hein, création de Gary Gygax et Dave Arneson. Et lorsque Gary Gygax est dégagé pour être remplacé par d'autres personnes, lorsqu'ils vont vouloir créer la troisième édition de Donjons et Dragons, le directeur de Wizards of the Coast à ce moment-là, Peter Atkinson, lui, c'est un manager. C'est vraiment quelqu'un qui connaît son métier, etc.
C'est dans les années 90.
On est beaucoup plus loin. Oui. Mais je prends un peu d'avance pour bien montrer à quel point il y a une reconnaissance quand même qui est faite. Lui, il voit très bien que bon, il faut faire une coupure avec ADD parce que c'est une usine à vapeur. Il faut relancer Donjons et Dragons. C'est la 3.0 qui va avoir un succès phénoménal. Et lui, il fait le déplacement. Il va voir Dave Arneson que tout le monde a oublié. Et il dit, bon, écoutez, vous avez réalisé tout ça. Nous, on veut tourner la page. On veut maintenant que Donjons & Dragons soit un produit Wizards of the Coast. J'ai un chèque. Dites-moi le chiffre. C'est capitaliste à l'extrême. Ça, voilà, c'est le manager. Mais je trouve que lui, au moins, il y a la reconnaissance. Il va dire, voilà, c'est vous qui allez dire. Tandis que Gygax a essayé de lui voler, enfin vraiment, a essayé de voler l'apport de Dave Arneson. À son profit, alors que Peter Atkinson va dire, écoute, maintenant on règle la question. Et par la suite d'ailleurs, Peter Atkinson a continué à mettre la reconnaissance. D'ailleurs, quand Dave Arneson est mort, il y a eu vraiment tout un commémoratif de ce qu'il avait apporté au jeu, au même titre que Gary Gygax avant lui.
Ben, ça en fait partie, oui, c'est pour ça. En fait, les deux sont... Évidemment, on a appelé ce podcast, cet épisode sur Gary Gygax, mais évidemment, non. Hein, Si on vous avait dit David Arneson, vous auriez dit qui ça
Et ce qui est bien dommage, parce que...
C'est horrible.
Il y avait un créateur de jeux de rôle, Ken Haidt, qui racontait qu'il avait rencontré Dave Arneson en 97 à la Geneva Convention. Et il a dit, mais il y avait quelque chose de triste parce que ce monsieur était seul dans un coin, il y avait une foule pas possible, etc. Il l'avait reconnu parce que bon, il avait eu des photos de lui. Et il disait, mais c'est fou, ce gars a inventé le jeu de rôle tel qu'on le connaît. Et il portait un badge, personne ne le voyait, alors qu'il y aurait dû avoir des foules de personnes. Oui. Et alors qu'en plus, Dave Arneson a continué à publier, a continué à proposer des choses très pertinentes. Alors notamment, il avait écrit un article « Pourquoi le jeu vidéo ne peut pas faire de jeu de rôle ?» dans les années 90, et qui est monstrueusement pertinent encore aujourd'hui. Donc c'était quelqu'un qui, en plus, était très clairvoyant sur ce qu'il faisait, et ça, c'est quand même aussi assez rare, et qui, malheureusement, avait un... Bon, il n'a pas disparu de l'indifférence générale, parce que, comme dit, les gens ont voulu rendre hommage à lui, notamment aussi dans le monde du jeu vidéo, parce qu'il avait pas mal collaboré à des jeux vidéo dans les années 90. Quoi. Mais c'est assez fou, faut quand même s'imaginer, voilà, dans les années 70, pourquoi on voulait parler de Gygax et de Arneson, d'abord de Gygax, hein, Arneson vient avec, c'est parce qu'il faut quand même voir qu'on part de rien.
On part de rien. Après, pour Arneson, c'est affreux, mais comme on dit, malheur au vaincu, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est affreux pour l'histoire, mais c'est comme ça. Il faut voir aussi que Gygax a eu un retour de karma assez important, puisque, bon, pour vous faire vite fait l'historique, donc, on en avait un peu parlé sur l'épisode sur Donjons et Dragons, mais vous avez cette espèce de raz-de-marée de jeux de rôle, finalement. Dans les années 70 et 80 encore plus, ça explose. Un intérêt fou, je crois on était à plus de 250 000 joueurs en France à la fin des années 80, enfin ce qui est fou comme chiffre hein, quand on y pense, de joueurs réguliers, hein, de pratiquants vraiment réguliers. Aux États-Unis, c'est évidemment encore plus. Et évidemment, on se rend compte, et Gygax se rend compte, parce que c'est quand même quelqu'un qui est né en 1938, si je ne dis pas de bêtises. Donc dans les années 80, Pépère, il approche doucement de la cinquantaine, il est complètement largué par rapport à ce qui se passe, il faut quand même être honnête,
Même s'il est largué, il se fait jeter, mais il est largué,
mais c'est même pire que jeter dans les années 90, c'est-à-dire qu'il a coulé sa boîte, parce que TSR c'est devenu n'importe quoi. Et il se fait racheter, Wizard of the Coast arrive, et puis nous on est financiers, on sait ce qu'on fait. Quoi.
Ça se passe pas dans ce sens. C'est pas
en deux temps.
Voilà, ça se passe en deux temps. Mais effectivement, Gary Gygax a une vision qui est très commerciale. Et ça, par contre, c'est un point qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a souvent cette image, ouais, ce sont des hippies au fond d'une cave. C'est un vendeur d'assurance. Quand vous regardez des photos de Gygax, on est à des kilomètres du hippie, hein. Le gars, c'est pas un hippie, hein, pas du tout. On le voit, on en avait parlé, notamment quand on avait parlé de la création de Dragonlance. Il a une vision très claire, voilà, il faut que ça soit une œuvre multimédia, transmédia, avec des livres, des romans, etc., etc. Il y a des commandes. Le seul problème, c'est que, je pense que c'est lié quand même un peu aussi à la nature assez égoïste de Gygax, c'est-à-dire qu'il veut garder un contrôle là-dessus, et il est largué, il est dans les années 80, et il lance des tas de trucs, des tas de projets, sans s'assurer que ça peut fonctionner, etc. etc.
Et il y a un changement de paradigme, on sent quand même qu'il y a un changement de paradigme dans les années 80, et que lui, malheureusement, il est du... C'est affreux ce que je vais dire, mais il est de l'ancien monde, tu vois, il y a ce côté...
Il est resté dans sa petite convention de Lake Geneva, où ça fonctionnait. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que sa façon de fonctionner est revenue finalement, aujourd'hui, quand tu regardes un peu le jeu de rôle indépendant, ça ressemble beaucoup à ce qu'était finalement au tout début le Gygax, Kuntz, Arneson.
Oui, mais ça génère zéro thune.
C'est 1 000 $ empruntés sur une hypothèque d'assurance vie. Je crois qu'on n'est pas très loin de ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Mais tu regardes des Kickstarter.
Oui, c'est le même principe. C'est devenu le même principe.
Voilà, quand tu mets un nom un peu célèbre derrière le Kickstarter, tu vois quand même qu'il y a des sommes d'argent qui sont... C'est pour ça que je voulais insister sur l'héritage de Gary Gygax par cet angle-là, pour montrer à quel point, aujourd'hui encore, beaucoup de créateurs de jeux de rôle fonctionnent comme lui a fonctionné. C'est-à-dire, on rassemble, on fait vivre notre jeu, notre projet dans une petite communauté, on en fait parler, on va lancer une souscription en disant « Regardez, maintenant, on va transformer, on va trouver des artistes pour créer vraiment quelque chose qui va attirer. Regardez combien de jeux de rôle récents, on parlait dans le précédent podcast de Degenesis, etc., se sont vendus parce qu'il y avait derrière une couverture magnifique et compagnie. Ça, c'est du Gary Gygax. Et qui font vivre ça par des discords, par on va aller dans les conventions de jeux de rôle, on va faire un peu le tour des conventions de jeux de rôle, on va vendre notre jeu au Festival de Cannes, etc. Ça, c'est du Gary Gygax. Ça, c'est l'héritage de Gary Gygax, très clairement pour moi. Mais le problème, c'est que Wizard of the Coast, Peter Atkinson, lui, les gars, il était bien gentil, coco, mais moi, je fonctionne complètement autrement. En plus, on va avoir bientôt le retour, on n'y est pas encore, mais on va commencer à avoir le retour de bâton de tous les gens qui commencent à dire « Oh, des adorateurs du démon, machin, etc. » Voilà, donc Wizard of the Coast a besoin d'assurer la survie. À quel prix, etc. Mais bon, ils ont réussi, hein. Ça, c'est, on va dire, c'est presque l'essentiel pour eux. Et effectivement, Gary Gygax se fait dégager. Et c'est là où on voit toute la différence qu'il va y avoir entre Gygax et Dave Arneson. Dave Arneson, quand il se fait dégager, il dit, écoutez, moi, je vais continuer tranquillement. Il va continuer à publier des modules pour Donjons & Dragons. Enfin, il va continuer à faire des trucs pour Donjons & Dragons. Mais il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire sa reconnaissance, et ça s'arrête là. Gary Gygax, lui, va dire « Non, mais je suis pas d'accord et je vais sortir, moi, un jeu de rôle qu'il va intituler, alors c'était Dangerous Journey. » Et au début, il voulait l'intituler Dangerous Dungeon. Et t'as les gars de Wizard of the Coast qui ont dit « Non, mais gars, t'arrêtes. C'est... Non, hein, DD, t'arrêtes. Tu me donnes ça autrement. » Et il va pas vouloir lâcher. Bon, on peut le comprendre, c'est son bébé, il s'est fait dégager de son truc. C'est... c'est aussi un écho un peu de ce qui se passe chez Disney à ce moment-là.
Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais te dire. C'est un peu le même principe. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il tourne Hippie. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, c'est une fois qu'il s'est fait dégager de sa compagnie, dans les années 90, qu'il commence à s'inventer un passé de hippie total, alors qu'il n'était pas du tout, et où vous le voyez dans les conventions avec les chemises à fleurs, alors que si vous prenez des photos de lui dans les années 80, il est en costard-cravate. Hein.
Ah, exactement. C'est... Bon, après, il était en costard-cravate, parce que, comme disait, il sortait du boulot pour faire ça, donc il n'avait pas à mettre... Voilà.
Oui, mais bon, quand même.
Bon, tu voyais quand même... Bon, je reviens aussi sur cette idée du fait qu'il y avait pas mal de jeunes qui tournaient autour, etc., etc. Je pense que c'était quand même aussi quelqu'un qui avait une vision très sociale de son activité.
Ah, tout C'est-à-dire, à fait, bien sûr.
Voilà.
Et oui, non, parce que là, on le dépeint comme un monstre horrible. Voilà, non, pas du tout.
Non, enfin, il y a des choses, quand vous avez des témoignages, j'ai lu des témoignages où tu avais des gens qui ont dit, mais j'avais un repas parce que j'allais chez les Gigax. Et que son épouse me préparait un sandwich au beurre de cacahuète. Et puis après, on voyait Gigax qui tapait à la machine. Et puis il disait, bon, les enfants, on va jouer. Et puis on faisait une partie. Bon, je disais, mais j'ai du respect quand même aussi pour ça, quoi. Je veux dire, c'est pas négligeable, quoi. Donc, notamment, il y a pas mal de ces gamins qui ont fini illustrateur pour Donjons & Dragons parce que ça lui coûtait pas cher. Bon, la frontière entre le travail dissimulé est très très floue chez Gigax.
C'est très flou, c'est voilà. très flou.
Mais il y a quelque chose, voilà, il y a ce côté, comme dit, un peu branquignol, où on se dit, mais comment ils ont réussi à monter ça ? Ils sont partis de rien. Moi, je le répéterai jamais assez, mais j'ai un respect mais fou pour les illustrateurs à qui on a dit, bon, bah, tu vas me dessiner un Otube. Illustrateur et qui vont mettre en place vraiment tout cet imaginaire qui aujourd'hui nous paraît commun. Je reviens sur Tolkien. La description des orques dans Tolkien, elle n'est pas délirante. Ce sont des humanoïdes
C'était un peu plus aidé à l'époque pour Tolkien, etc. Puisqu'il y avait déjà des. Alors, c'était pas des illustrateurs, mais il y avait quand même tout un imaginaire et donc des dessins qui dataient notamment du 19e. Sur des créatures fantastiques.
Le folklore était déjà bien présent et on recycle pas mal ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle Tolkien, très intelligemment, ça il faut le dire, c'est extrêmement important, ne va pas imposer un descriptif, il va laisser le lecteur s'imaginer. La description du Balrog, elle est extraordinaire parce que tout le monde a une représentation du Balrog alors que quasiment pas décrite dans la créature.
Alors maintenant, tout le monde a la même, parce que tout le monde a vu le film, ça c'est autre chose. Mais...
Et même avant le film, il y a John Ho qui a fait cette fameuse illustration où on voit le Balrog bondir. Et ce qui est intéressant, c'est que John Ho le disait, il a eu le même problème, c'est-à-dire on lui demande de dessiner le Balrog. Pour lui, c'est un démon, donc il va avoir une représentation. Alors, sauf qu'à aucun moment, c'est un démon, il n'y a pas d'imaginaire chrétien chez Tolkien. Et donc, pour en revenir à ça, effectivement, cette esthétique de réinventer, alors, il pioche à droite et à gauche, tu parlais effectivement de ça. Les livres pour enfants, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, il y avait énormément, parce que les livres pour enfants, il y a des illustrations, et là, c'est un point qui est extrêmement important. Beaucoup d'illustrateurs de Donjons et Dragons au début seront des illustratrices. Parce que livre pour enfants, hein, évidemment, c'est pas sérieux, c'est pour les enfants, ce sera donc des femmes. Hein, bon, voilà.
Comme oui, toujours le même sexisme.
Oui, évidemment. Exactement, c'est quelque chose qui est assez marquant. Mais effectivement, autour de lui, bah, il interroge et il trouve que c'est soit des gamins qui décident à peu près correctement qu'il embauche pour faire ses illustrations, soit des personnes qui travaillent, qui ont un peu de travail, qui gagnent un peu leur vie pour faisant des illustrations pour enfants et qui l'utilisent pour ça. Donc il y a ça. Il y a ce côté de faire vivre le jeu de rôle. C'est un point, c'est un aimant qui est quand même central. On disait à quoi reconnaître... Un aimant qui va être très central, c'est l'idée du lâcher-prise, c'est-à-dire j'offre un système de règles, l'univers, voilà, il y a des bases, c'est à vous.
C'est à vous de le faire. Mais justement, puisque c'est bien, ça me fait tout à fait ma transition, justement, du coup, puisqu'il n'y a pas et pour revenir au thème qu'on s'est auto-imposé du podcast, du coup, puisqu'il ne fait pas de description d'univers par lui-même, comme tu l'as dit, il va embaucher des gens qui vont s'en occuper, etc., par la suite, avec Dragonlance, etc., mais ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a quelque chose de Gygax? Est-ce qu'il y a un travail d'auteur, justement, puisqu'on cherche ça, finalement? Est-ce qu'il y a une patte?
Bah, tu dis...
Est-ce que tu as joué à Dangerous Journey, par exemple?
Alors, j'ai regardé Dangerous Journey, c'est triste, un copier-coller de Donjons Dragons qui ne veut pas se l'avouer, et c'est bancal en plus. Mais à nouveau, on en avait parlé au tout début, c'est d'où vient Gary Gygax, hein, il vient du Wargames. Et je pense que l'un des héritages de Gary Gygax, c'est le côté très simulationniste. Un jeu de rôle, Gary Gygax, c'est un jeu de rôle qui est simulationniste. C'est justement d'ailleurs la différence qu'il va avoir avec Arneson. On en parlait au tout début, lorsque les deux se rencontrent et disent « bon ben voilà, il faut qu'on mette ça ». Et Dave Arneson dit « ben non, moi j'ai pas de bouquin de règles, j'ai les fiches de mes monstres, mais le reste, voilà, c'est moi qui invente le jet que le joueur va faire pour réussir à grimper le mur ». Tandis que,
c'est un peu l'excès inverse.
Ouais. Voilà. Tandis que Gary Gygax, lui, il vient du monde du Wargames, donc effectivement, il a des tas de tables, de tableaux, etc. etc. Et c'était effectivement un des commentaires que j'avais vu, justement, par rapport à cet héritage de Dave Arneson. La citation, c'est « Les choses que les fans de D&D adorent à propos de ce jeu, la chose qui distingue le jeu de rôle du Wargame Fantasy, c'est la vision de Arneson. Gygax, c'est le côté qu'aujourd'hui on reproche, c'est-à-dire l'idée que le jeu de rôle va être une simulation avec un système de règles qui permet de simuler le combat et que donc par conséquent qui va contraindre l'imaginaire. Et toute la partie narrative, enfin, toute la partie entre guillemets théâtre improvisé, etc., c'est Dave Arneson. Et c'est ça. Et on le retrouve, hein, cet héritage de Gary Gygax. Hein, si vous regardez les premières règles de Shadowrun.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. Hein. Que ce soit Shadowrun, Warhammer, voilà. Rollmaster, on en avait parlé, je ne sais plus quand, au secours.
Rollmaster, j'ai envie de dire que c'est pire. Hein. Rollmaster.
Oui, mais c'est ça. Voilà. Genre, c'est ce principe-là. C'est-à-dire qu'on va vous simuler. Vous soulevez votre tasse de café pour la boire, vas-y, jette-moi un dé. Quoi. Ouais, il y a des modificateurs, il fait nuit.
Je tiens à préciser pour nos auditeurs, ce n'est pas une blague concernant Rollmaster. Vous faites des jets de dés pour ouvrir une porte. Hein. Ce n'est pas nous qui exagérons. Hein.
Donc, non, ce n'est pas exagéré. Il y a la fiche de personnage de Rollmaster prend, je crois, 4 à 6 pages recto verso.
C'est branque. Donc, et je pense que ça, c'est aussi un peu cet héritage. C'est ce qui fait qu'on peut se dire encore aujourd'hui, quand on ouvre un jeu de rôle et qu'on voit effectivement toutes ces pages. Dans les jeux médiévales fantasy, les catalogues de sorts.
Oui, par exemple, voilà. Tout simplement.
C'est avec le descriptif du sort qui tape sur tant de mètres, qui a tel gabarit, etc. etc. On est dans la vision. D'un Gary Gygax.
Complète de Gygax, c'est clair. D'ailleurs, un cartade aparté, l'incompréhension complète des gens qui ont pour la première fois, dont je fais partie, hein, je me mets dedans, qui ont pour la première fois ouvert le bouquin Mage, l'Assemblée, je crois.
L'Ascension.
L'Ascension, où on vous marque quand même, il est marqué dessus Mage, donc vous avez tout votre bagage de Donjons et Dragons derrière. Vous ouvrez et il n'y a pas de sort.
Vous avez des voix hein, qui vous disent, on en reparlera quand on fera le truc. Mais c'est justement en fait de dire, bah, en fait, vous maîtrisez cette voix et c'est votre imagination qui va et les limites que vont vous imposer.
Ça, c'est du Arneson en fait.
Ça, c'est, on est dans Arneson très clairement. Ça, c'est du Dave Arneson voilà. Avec un système de règles qui est limitatif au possible. Et c'est pour ça que les deux sont importants. Le fait que, bon, malheureusement, ça s'est mal fini entre les deux. Alors, apparemment, pas si mal, parce qu'à la fin, ils se sont quand même rabibochés de loin, on va dire. Mais.
Ils sont morts étonnamment à un an d'intervalle.
Un an d'intervalle, et malheureusement, ils ont passé par les mêmes problèmes de santé tous les deux. Donc, je pense que c'est un peu pour ça qu'ils se sont un peu rabibochés sur la fin. Ça ne s'est pas fini comme Gilbert et Sullivan, voilà. Mais l'idée de base ici, c'est que quand même, on a à ce moment-là quelque chose qui va imposer, on va dire, une trajectoire à la manière de faire du jeu de rôle. Hein. Ces deux hommes qui vont dire, ben voilà, moi ça va être une simulation, parce que, à nouveau j'insiste, hein, Gary Gygax part sur la simulation parce que c'est ce qu'il a comme audience.
Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est ce qu'il connaît aussi, c'est ce qu'il pratique.
Il connaît, il pratique, il sait qu'il y a des joueurs qui sont là-dedans, il sait qu'ils sont intéressés, puisque Chainmail a quand même plutôt bien fonctionné. Et donc il se dit, bah voilà, on va pas sortir, on va pas trop brusquer ces gens-là, parce que c'est eux qui vont acheter, ça va être nos premiers acheteurs.
Et d'ailleurs, en fil rouge de enfin, vous le verrez ou vous l'avez vu déjà si vous avez écouté religieusement la saison 1, ce qu'on espère, en fil rouge, on voit bien qu'il va y avoir ces deux voies, on va dire, ces deux pratiques du jeu de rôle qui vont perdurer jusqu'à nos jours, hein, bien sûr. Et certains et certaines créateurs et créatrices vont essayer de naviguer un peu entre de la simulation pure et puis de l'imaginaire pur. Certains vont carrément tomber, on l'a dit pour Rollmaster, ça c'est vraiment de la simulation pure, où il n'y a pas d'univers non plus d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a des jeux comme Ambre, puisque tu en avais parlé, où là ça va être vraiment de l'imaginaire pur, où il n'y a quasiment pas de règles, voire plus de règles du tout. On ne parlera même pas évidemment des jeux de rôle indépendants maintenant et de son explosion, où il y a carrément des jeux sans règles, c'est, allez-y, sans maître du jeu, sans plus rien. Mais on a toujours eu en fait cette ligne. C'est intéressant de voir que c'est les deux courants, voilà, je vais dire ça comme ça, que ces deux courants partent du même endroit et de deux personnes qui se connaissaient. Mmh. Ça aurait pu être à deux bouts du monde, oui, tu vois, un qui fait de la simulation. Voilà. Et puis... Mais c'est très intéressant, je trouve.
Ce qui est d'ailleurs très représentatif de ça, c'est la création Évidemment, c'est le moment où j'ai mon. Du maître de jeu.
Oui.
Parce que, comme dit, dans un wargame, il n'y a pas de maître de jeu. Ce sont les règles.
Il y a un arbitre.
Il n'y a même pas d'arbitre, hein, nécessairement. En fait, il y a quelqu'un qui connaît les règles et qui va regarder les règles. Mais si vous jouez à un wargame.
Je crois dans les conventions, ils avaient un arbitre obligé, je crois que ça.
Mais parce que c'était des tournois, parce qu'il y avait une notion de tournoi.
C'est ça, c'était
derrière,
des tournois très très précis.
Forcément, il fallait qu'il y ait un référent commun. Mais vous sortez un wargame avec vos copains. Bon, ben, il y en a un qui a mieux lu les règles, donc il va. Voilà, mais il n'y a pas de maître de donjon. Arneson, d'ailleurs, n'emploie pas, lui, le maître de donjon. Il parle de référent, parce que dans son optique. On en avait déjà discuté, c'est le fait que le maître de donjon, c'est l'interface entre les joueurs et l'imaginaire. C'est par lui que passent vos sens, etc., etc. Le maître du donjon est un terme qui va naître de la confrontation, finalement, entre Arneson, Kunz et donc Gygax, parce qu'il faut quelque chose qui claque, entre guillemets. Il faut quelque chose que l'on puisse représenter dans un manuel, c'est-à-dire illustrer dans un manuel. Et donc, effectivement, ce Game Master, ce maître, le Dungeon Master, en plus, il faut que ça apparaisse, le Player's Handbook, le Game Master Handbook, voilà, il faut que ça apparaisse sur la tranche. Oui. C'est comme ça que ça naît. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit justement à quel point, au début, c'est pas évident. C'est ça qui est important, c'est vraiment de se voir à quel point, même cette notion qui peut paraître extrêmement, mais vraiment une référence de base du jeu de rôle, mais de côté effectivement certains jeux de rôle indépendants ou meneurs de jeu disparaissent, mais au début il fallait l'inventer, quoi.
Et oui. Et d'ailleurs c'est intéressant de représenter, comme tu dis, le player handbook, le manuel du joueur et le manuel du maître du donjon, du maître de jeu, appelez ça comme vous voulez, comme si... Et d'ailleurs, il a fallu des années derrière pour rattraper la chose, comme si le maître du jeu ne jouait pas.
Et c'était d'ailleurs au passage...
Terrible, d'ailleurs.
C'était d'ailleurs au passage une des critiques de Gary Gygax. Au début, il disait, non, il n'y a pas quelqu'un qui va rester à la table et rien faire. Ce qui est intéressant, hein, c'était... Et Arneson qui expliquait, mais non, il joue aussi à sa manière, parce que lui, il anime, il contrôle les monstres, etc. Parce que bon, après, il ne faut pas non plus exagérer, hein, Arneson... il n'a pas en tête le théâtre improvisé, hein. Lui il est là, son univers c'était Blackmoor, c'est le nom d'un château, c'est une contrée fantastique très vanille à la base, il y a un château, il y a des monstres dans le château, les joueurs entrent dans le château pour aller tuer des monstres et le meneur joue les monstres. Et il y a deux points sur lesquels...
Oui, c'est porte-monstre-trésor.
Oui, c'est le porte-monstre-trésor, mais... avec quand même toute cette notion d'interprétation, et puis ce qui est très intéressant... Et ça, c'est une anecdote qui est quand même très intéressante parce que tu dis porte-monstre de base, mais la première partie que Dave Arneson fait jouer à Gary Gygax, donc Dave Arneson fait le déplacement, il vient, etc., il dit voilà, on va s'installer, et ça commence, vous êtes dans une auberge.
Le fameux.
Ouais, vous êtes dans une auberge, le fameux, etc. Et puis alors, au début, Gary Gygax, il est un peu décontenancé parce que bon, voilà, il dit Wargames, comment ça, on va pas attaquer un château, machin, etc. Non, vous êtes dans une auberge. L'aubergiste vous dit, faites pas trop de problèmes, je vous ai à l'œil, etc., etc. Et les gars, bon, ils font le début. Et alors, je sais plus si c'est Kunz ou c'est Gygax. Alors, au début, il y avait que deux rôles, hein. Soit vous étiez un héros, soit vous étiez un magicien. Voilà. Et je crois, il y avait dans le groupe, il y a que Gygax qui fait un magicien, tous les autres font des héros. Et donc, je crois que c'est Kunz. Et Kunz, il dit, c'est bon, on a fini avec l'auberge. Il sort de l'auberge. Et au moment où il sort de l'auberge, et en fait, il réapparaît dans l'auberge. Et Lynn, on a passé toute notre soirée à comprendre comment sortir de l'auberge, parce que l'auberge était enchantée. La première
oui,
partie...
pas du tout à jouer un jeu.
Voilà,
de... pas du tout à jouer un jeu de stratégie.
Voilà, et la première partie de jeu de rôle n'était pas un porte-monstre-trésor.
Et non.
Et Gary Gygax.
C'était un jeu d'enquête.
Voilà, presque un jeu d'enquête. Et Gary Gygax a été tellement impressionné par ça, donc Dave Arneson part. Il chope Kuntz, après il dit bon, faut qu'on recommence, et ils s'aperçoivent que bah, ça fonctionne moins bien. Il y a Kuntz qui explique à Gygax, ouais, mais le gars, ça va faire 10 ans qu'il fait ça, il a un truc, on a besoin de lui, il faut qu'il soit avec nous pour nous aider à mettre tout ça en place. Et c'est comme ça, mais je trouve quand même très révélateur que, effectivement, cette première partie de jeu de rôle n'était pas, et c'est un truc tout bête, c'est vraiment en plus, tu vois, le symbole de la taverne. Commencez, vous êtes dans une taverne, c'est devenu quasiment le trope de Donjons et Dragons. Mais ça commence comme ça, et en plus, avec un scénario que je trouve quand même assez fou, quoi. Je veux dire, le truc, vous êtes prisonnier dans une auberge, c'est fou.
Oui, il fallait oser, quoi.
Voilà, je crois d'ailleurs, il y a même un jeu de mots, parce que le nom de l'auberge, c'était Comeback. Et en fait,
oui,
voilà.
Ouais. Petite anecdote d'ailleurs à ce propos, il faut voir que, alors ça vous le savez peut-être pas, nos auditeurs et auditrices ne le savent peut-être pas, mais ces parties c'était des pratiquants, que ce soit Gygax, Anderson, Kuntz, etc. Ce sont des pratiquants de jeux de rôle et de pratiquants qui vont avoir un impact sur Donjons et Dragons, puisque certains sorts comme la main géante de Gigsby, etc. Enfin, il y a plein de sorts comme ça, de sortilèges nommés dans Donjons et Dragons, sont des sortilèges ou des pouvoirs issus des personnages qu'ils jouaient à l'époque.
Oui, puisqu'il va y avoir en fait deux trames qui vont se faire. Donc d'un côté, il y a Arneson qui va continuer avec Blackmoor et qui va enrichir, etc. Et de l'autre côté, donc, il y a Gary Gygax qui va créer son monde, Greyhawk, qui va être le monde, entre guillemets, de... la première boîte de la première édition de Donjons et Dragons, et c'est là où effectivement on va retrouver Mordecai, Bigby, etc.
C'est ça.
C'est pour ça que quand vous utilisez l'OGL pour utiliser les règles de Donjons et Dragons, vous ne pouvez pas.
Il n'y a pas ces noms.
Il n'y a pas ces noms, vous ne pouvez pas utiliser ça, parce que là, pour le coup, c'est réellement de la propriété intellectuelle. Ils ne peuvent pas déposer boule de feu, parce qu'une boule de feu, c'est une boule de feu, mais par contre, la main, la poigne écrasante de Bigby, voilà, ça fait partie de l'univers de Greyhawk.
Et c'était leur personnage. Je trouve ça, soit leur personnage, soit les grands antagonistes qu'ils avaient rencontrés,
oui,
durant leur partie.
Voilà, c'était ça. Il y avait le Vecna, ce genre de choses, quoi. Et je trouve que c'est quand même assez... C'est aussi très révélateur. À nouveau, je reviens vraiment là-dessus, sur le fait que Gygax, avant vraiment de faire, enfin vraiment de réaliser Donjons & Dragons, le playtest, quoi, la quantité de tests, de parties, etc. Il a fait vivre son jeu de rôle, il a fait vivre sa création, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, à travers des conventions, donc cette fameuse convention du Lake Geneva, donc Gen Con, et avec tout son entourage, quoi.
Et si ça vous intéresse d'ailleurs de voir un peu ce que c'était ces parties de playtest et ce que ça pouvait être, ces premiers jeux, vous avez très facilement trouvable sur Internet. Alors, c'est pas du tout du vol, hein, c'est pas du tout du pillage, c'est qu'en fait, vous le savez, on vous en a déjà parlé, l'OGL, c'est-à-dire l'Open Game License de Donjons et Dragons, a été rendu public, Wizard of the Coast, etc. Bon, bref. Et des petits malins se sont dit « Hey, mais on va faire du rétro-engineering et on va remonter, et on va remonter le temps, puisque finalement, il y a toute la base. On va remonter le temps, on va épurer, et on va retourner à Chainmail et on va retourner à la Whitebox. » Donc, vous avez disponible sur Internet pour quelques euros Chainmail, tel qu'il devait être à peu près à l'époque. Et vous avez également la White Box. Alors la White Box, qu'est-ce que c'est? C'est comme Donjons et Dragons, le tout premier Donjons et Dragons, juste avant. Et c'est un jeu où, par exemple, vous jouez, alors comme tu as dit, il y a l'aventurier, donc le héros, voilà. Il y a le mage, il y a même pas le voleur, il y a l'elfe, il y a les petites gens qui servent de voleurs, en fait, et il y a le nain, voilà, c'est tout. Il n'y a pas, je crois qu'il n'y a même pas d'alignement, il me semble, ou en tout cas...
Alors, pour la petite anecdote, les alignements devaient y être, parce que c'était... Alors, sauf
oui,
que
mais je crois qu'ils sont très simples, hein. C'est bon, mal...
Non, justement, il n'y a pas bon et mauvais, parce que la première inspiration de Gary Gygax, alors, pour créer les...
Loi et chaos, alors.
Ouais, c'est ça. C'est en fait, d'accord, pour créer son univers, pour créer son système de règles, il a trois sources d'inspiration. Pour les sorts, il s'inspire de Jack Vance... et la Terre mourante, le cycle de la Terre mourante. Pour les alignements, ils s'inspirent de Moorcock, chaos, loi, neutre, et de Poole Anderson pour une partie du bestiaire. Et alors, le prêtre, pour la petite anecdote, c'est Dave Arneson qui apporte le prêtre pour une raison qui est toute bête, c'est que les joueurs s'aventurent dans un donjon, donc il n'y a pas de tente d'infirmerie. Donc, il faut un infirmier ambulant, donc ce sera le prêtre. Voilà.
C'est ça, exactement. Et c'est marrant parce que vous avez vraiment, quand vous lisez la White Box, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai même fait jouer la White Box. Ça fonctionne très bien, finalement, avec des gens qui ne connaissent rien au jeu de rôle, parce que c'est extrêmement simple. Vous dites, tu joues un elfe. Bah, il joue un elfe, alors l'elfe qui veut. Et du coup, l'imagination est tout à fait libérée, finalement, du carcan de « Ah non, non, mais moi j'ai un elfe, mage, guerrier, biclassé, voleur, truite enchantée, tu vois. » Donc et là, on se retrouve vraiment avec quelque chose de... On a une grande libération de l'imaginaire, bizarrement, contre-intuitivement même, et ça marche très très bien pour l'initiation. Donc son truc n'était pas si con, tu vois.
En fait, ça c'est un point qui va être très important, et c'est pas un hasard de la part de Dave Arneson, je rappelle qu'il était prof, et Gary Gygax, du fait qu'il il travaillait beaucoup avec des jeunes, etc., ils comprenaient parfaitement tous les deux à quel point, et surtout parce que ils faisaient une proposition que personne ne connaissait, il fallait absolument que ça soit didactique. Il fallait qu'il y ait des fils conducteurs. L'alignement, c'est certes c'est un carcan, mais c'est aussi un moyen pour le meneur d'avoir une passe de repli en se disant, bon, qu'est-ce que va faire le monstre? Ah, il est d'alignement chaotique, donc il va faire ça. Donc c'est un moyen. Alors aujourd'hui, effectivement, on va reprocher en disant, machin, etc. Mais c'est aussi pour faciliter la prise en main, et c'est quelque chose qui est resté chez Donjons & Dragons. Il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle, il y en a vraiment peu qui prennent autant de temps à expliquer c'est quoi un meneur, comment on écrit une histoire, comment quelles vont être les bases de notre univers. Alors après, on peut critiquer tant qu'on veut, il y a des tas de choses qui sont critiquables, la place de la femme, le machin, etc., ce qu'on, peu importe, mais il est réellement didactique. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup...
Je crois qu'à l'époque, il ne se posait même pas la question. Sur la place de la femme,
ah oui, non, mais là je parle d'aujourd'hui.
La représentation antagoniste, si voilà. Tu veux, c'était...
Oui, de toute façon, c'est hyper basique. Non, mais là, je ne parle pas de à l'époque. Là, je parlais de Donjons et Dragons dans les années 90-2000. Hein. Attention. Hein.
Ah oui, non, voilà. D'accord. Oui, oui, ouais. Okay.
Là, mais c'est en fait quelque chose qui est important. Alors qu'aujourd'hui, si vous regardez le nombre de publications que vous avez sur jeux de rôle, il y en a quand même beaucoup. Je ne connais pas beaucoup de jeux de rôle qui prennent le temps d'expliquer. Alors, vous avez toujours la règle de base, c'est quoi un jeu de rôle, qu'est-ce que vous faites chacun, mais qui vont essayer vraiment d'apprendre aux joueurs comment on joue sans se montrer dirigiste ou quoi que ce soit. Et ça, par contre, c'était une volonté très claire de Dave Arneson de dire c'est un peu, on disait justement le problème qu'avait eu Gary Gygax quand il a voulu faire du Dave Arneson et qu'il s'est aperçu qu'il ne savait pas comment faire et qu'il a compris que du coup il fallait qu'il y ait un guide pour le maître de jeu, parce que voilà.
Et écoute, on a fait le tour, encore une fois on est bien. C'était un épisode sur Gary Gygax. Quand même, c'est bien, je veux dire. Bien, écoute, merci Styr.
Merci Secteur.
Je vous rappelle que Roll You Fool est une production Studio Carton C. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord et nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et on vous dit à la prochaine. Salut.
Salut.